Voilà. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor?
Easy, easy, old man. She's not hurt?
No. Not wounded, sir.
Che fai, credi?
Ma stato fatto, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosci?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che fisso? Come fa che fisso?
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles, cinévores du vendredi et Madame la Ministre. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche, et vous avez toujours autant raison en 2024. On est très nombreux aujourd'hui autour de la table. Nous sommes avec Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour tout le monde.
Cathy.
Bonjour.
Violetta.
Bonjour.
Bonjour. René.
Bonjour.
Et Didier.
Et bonjour.
Et bien sûr, derrière la vitre, Sylvain. Salut,
salut
Sylvain.
Salut à tous.
Et nous allons parler des films Les Incorruptibles, Les Infiltrés, Paris, Je t'aime, Les Marches du Pouvoir. Non, je me trompe d'actualité. Nous allons parler de Priscilla, Pauvre créature, Les Colons, Bonnard, Pierre et Marthe, Mon ami robot, Sirocco, et peut-être simple comme Sylvain, on dira un mot du festival Télérama. Allez, on commence tout de suite. Un extrait de How You Satisfy Me de Spectrum Topic. C'est issu de la bande originale de Priscilla, une bande originale de 17 morceaux entre grands classiques américains, des Ramones à Alice Coltrane et des reprises de groupes indépendants plus confidentiels. Et pas un morceau d'Elvis parce que ce film traite de Priscilla Beaulieu, que tu es allée voir, Cathy.
Oui, j'avais hâte de voir ce film. Qui est le xème film de Sofia Coppola. Sofia Coppola, peut-être en deux mots.
Lost in Translation.
Oui, je vais en parler. Bon, c'est la fille de Francis Ford Coppola qui s'est fait repérer dans les années 2000, enfin en 1999, avec Virgin Suicide, qui a fait l'objet d'une ressortie au cinéma en salle cette année, enfin 2023. On est passé à 2024, j'ai encore un peu de mal.
On est encore en transition.
Et donc dans ce film, effectivement, qui est adapté de l'ouvrage de Priscilla Presley, donc dans le témoignage par rapport à sa vie, on plonge dans la rencontre de Priscilla et de d'Elvis Presley en Allemagne, donc en Europe, quand il fait son service militaire, elle a 14 ans. Il en a, je ne sais plus combien, plus de 20, une vingtaine. Ouais, c'est ça, entre 20 et 20. Ouais, 20,
il a 10
autour
ans.
De 20 ans.
Ah, plus.
Et effectivement, il s'intéresse à cette très belle jeune fille. Elle est évidemment très. Très séduite aussi par lui, qui est déjà très très connu et qui a déjà un peu son histoire, son rapport aux femmes, enfin bon bref, et on assiste à cette histoire d'amour et non pas de désamour, parce que je pense que quand elle part, elle décide de partir, elle est toujours amoureuse de lui, sauf que bon, effectivement, Elvis Presley, on l'a vu déjà un peu à travers le film de Baz Luhrmann, hein, Elvis, que c'est quelqu'un qui a une cour en permanence autour de lui, qui est à la fois mégalo, qui se plonge aussi dans des drogues, dans des médocs, dans tous les excès possibles, et qu'effectivement, même si l'amour est là, c'est assez compliqué de vivre avec quelqu'un qui s'appelle Elvis Presley. Voilà. Et donc, ce que je retrouve, en fait, dans ce film, et je m'amuse toujours à écouter ou à lire un peu ce qu'on dit Le Masque et la Plume, c'est que il fait état d'un ennui rapide dans le film. Enfin, en tant que spectateur, on peut très vite s'ennuyer parce qu'il y a des choses un peu récurrentes qui reviennent. Et avec ça, j'ai envie de dire que si on connaît la filmographie de Sofia Coppola, on est justement complètement dans cette thématique, parce que depuis Lost in Translation, ou Marie-Antoinette encore, on est dans des personnages effectivement qui s'ennuient dans leur vie à un moment. Et bah, nous, en tant que... Enfin, elle, en tout cas, en tant que réalisatrice, et nous, en tant que spectateurs, on subit un peu aussi cet état-là. On est aussi un peu dans cet état de flottement, de savoir ce qu'on va, enfin oui, comment les choses vont évoluer, quelle décision va être prise, et on suit aussi ces personnages là dans leur ennui quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel, voilà.
Éternel.
Voilà, et éternel.
Surtout pour nous.
Voilà, c'est ça. Et malgré tout, j'ai quand même aimé, les choix qu'elle a fait de réalisation. C'est difficile de faire un film sur un personnage en particulier, Priscilla, avec la place que peut prendre Elvis, et dans le film, il prend encore de la place. Et c'est pas pourtant ce qu'elle voulait, mais il prend quand même de la place, parce que c'est un personnage à part entière, hein. Très complexe, très ambigu, très passionné, et qui prend beaucoup de place. Donc c'est compliqué de faire un film sur leur histoire sans que lui prenne encore beaucoup trop de place. Mais bon, ça explique aussi, hein, pourquoi elle sera partie. Et ensuite, la révélation, c'est les acteurs. Je trouve que ces deux acteurs qui ont respectivement 25 et 26 ans, là, Kelly Spaeny et Jacob Elordi, sont super dans les interprétations respectives. Moi, je conseille quand même d'aller voir le film pour aussi la bande-son, parce que comme tu disais, il y a une très très bonne bande-son. Elle aime bien ça aussi. En tout cas, elle est très très attentive à ce qu'elle met en musique dans ses films, et que il y a quand même un intérêt à découvrir, même si on connaît beaucoup de choses de leur histoire, parce que ça a été des personnages publics quand même, voilà, très très forts. On est assez facilement bercé par le film.
À voir, alors c'est à l'affiche à Aubenas et à Privas cette semaine, et puis ça sera la semaine prochaine au Teil et à Rosières. Priscilla de Sofia Coppola. Merci Cathy.
I am Bella Baxter. I'm a flawed experimenting person. I seek outings and adventures. Bella, so much to discover.
You're the most beautiful woman I've ever seen.
I am finding being alive fascinating.
Bella.
Why I keep it in my mouth if it is revolting. I must go punch that baby.
We must experience everything, not just the good. But degradation.
Shall we sing?
Horror. Sadness.
Bella!
Then we can know the world. And when we know the world, world is ours.
Any more?
No more. Any more is too much.
Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, à qui l'on doit The Lobster notamment, Mise à mort du cerf sacré, pardon, ouais. Ou La Favorite. Pauvre créature, donc un film avec Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, qui était Lion d'or à la dernière Mostra de Venise, et que tu es allé voir, Didier.
Avec grand plaisir, oui, et qui non seulement Lion d'or à Venise, mais qui vient d'obtenir 2 Golden Globes. Quand même, je crois que c'est la meilleure interprétation féminine et meilleur, je sais plus quoi, meilleur film, je crois, tout simplement, ce qui est quand même pas rien. Moi, c'est un réalisateur que j'ai apprécié dès son premier film qu'on avait montré aux rencontres à l'époque, Canine, qui avait été une révélation, parce que là, on touche à un cinéma complètement différent de pratiquement tout ce qu'on connaît aujourd'hui. On est dans autre chose, et Pauvre créature, qui est adapté d'un... Alors, pour les anglicistes, c'est adapté d'un roman d'un auteur écossais qui s'appelle Alasdair Gray. Peut'être que tu connais.
Alasdair Gray, ça me dit quelque chose. Voilà. Mais c'est contemporain ?
C'est contemporain, je crois, oui. Donc on est là sur... c'est un retour sur le mythe de Frankenstein, sauf qu'ici, le monstre est une jeune femme qui doit avoir dans les 30 ans, dans laquelle on a greffé le cerveau d'un bébé. De son propre bébé, pour tout dire. Ça, on peut le dire, parce que c'est vraiment le début du film. Et donc l'histoire, c'est l'apprentissage... de la vie de ce personnage qui est vraiment hors du commun. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que le personnage couturé, complètement défiguré, c'est le créateur, c'est le père, qui s'appelle God d'ailleurs, donc c'est pas tout à fait par hasard. Et par contre, la créature, elle est absolument sublime. Alors, on va assister dans un premier temps à son apprentissage purement physique, c'est-à-dire comment marcher, le langage, les choses basiques. Et puis après, le film est un film initiatique où elle va passer par différents états et apprendre le monde, la vie, la souffrance, la misère, la richesse, l'opulence, le sexe, le plaisir, la jalousie. Donc elle va passer par tous ces états. Alors d'abord, c'est déjà un scénario extrêmement fort, extrêmement puissant, mais ce qui ajoute à ça avec énormément de force, c'est le traitement, la mise en scène qui est absolument incroyable. On est dans des décors qui sont fabuleux. Chaque ville, par exemple, est représentée de façon alors mi-gothique, mi-fantastique, mais garde toujours des éléments qui peuvent nous faire penser à Lisbonne, hein, puisqu'on va à Lisbonne à un moment. Et puis il y a des séquences absolument fortes, comme par exemple à Athènes, où la belle, la créature, va découvrir ce qu'est la pauvreté et la misère, ce qui va la mettre dans un état absolument incroyable. Donc on est là, pour moi, dans quelque chose de totalement nouveau. C'est le cinéma de Lanthimos. Le traitement, en dehors de ces décors, fait appel à énormément de choses différentes. On a des passages en fisheye, vous savez, c'est très grand angle qui filme à 180 degrés. On a l'impression d'être dans une bulle quand même, comme ça. On alterne entre couleurs et noir et blanc. Enfin, c'est une bande-son qui est absolument remarquable, et on est vraiment plongé. Alors ça dure 2h20, je crois. On les voit absolument pas passer, enfin en tout cas pour mon cas. Et surtout que au-delà de tout ça, il y a énormément d'humour dans le film. C'est-à-dire que la découverte de notre monde, qui est quand même pas le meilleur des mondes possibles, par une sorte de créature. Moi, ça m'a fait penser à Candide. C'est complètement Candide, un œil neuf qui découvre notre monde et qui comprend rien à cette bizarroïde façon de vivre, les rapports entre les gens. Voilà.
Ça fait penser au cinquième élément, là, de ce que tu parles. Là,
ah oui, mais alors c'est très, très, très au-dessus. Très, très au-dessus du cinquième élément. Et comme dans Frankenstein, la créature va échapper à son créateur pour vivre sa vie, mais de façon complètement différente. Alors juste 2 mots pour terminer. Emma Stone, absolument extraordinaire. Alors là, on attend les Oscars, on va voir, mais voilà. Et on croise, petite cerise sur le gâteau chez les actrices, on croise Anna Chigoula dans le rôle d'une vieille dame anarchiste. Voilà, non, c'est un grand plaisir de cinéma.
Je crois qu'Emma Stone est coproductrice du film.
Oui.
Donc, Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, qu'on peut voir au navire en ce moment. et on continue.
Quiero que abra una ruta hacia el Atlántico para mis ovejas.
Look at this enormous land. Three men. Don't it seem absurd?
Tú de dónde eres?
You're white, and he's not. And our differences are set in stone.
Voy a tener que limpiar esta isla. El problema son los indios.
Les colons de Felipe Galvez à Berlay, on a entendu les tambours là. Les colons, prix de la critique internationale, un certain regard à Cannes. Et Cathy et Didier, vous êtes allés voir ce film.
Tu veux commencer ?
Non, je t'en prie, vas-y.
Moi, ce que je l'ai vu il y a à Cannes, enfin pour préparer les rencontres à RSC de Cannes qui précèdent, vous le savez, le Festival de Cannes tous les ans. Et c'est un film qui nous a particulièrement impressionnés parce que c'est un premier film. Et en termes de lumière, enfin chef-op travaille sur l'image, les ambiances, les personnages, l'écriture des personnages, la direction d'acteurs, il n'y a vraiment rien à dire. C'est vrai que il y a une maîtrise dans la réalisation pour un réalisateur qui a fait quelques courts-métrages, hein, dont un avait été présenté, sélectionné aussi à la Semaine de la Critique. Son troisième court-métrage qui s'appelait Rapace. C'est vrai que là, on est dans un très haut niveau déjà de cinéma pour un premier film. Donc c'est l'histoire se passe en 1901, début du XXe siècle, au Chili. Et là, il y a un vaste territoire qui est fertile, qui attise l'intérêt d'une aristocratie blanche qui cherche à civiliser la région. Et on a trois cavaliers qui sont recrutés par un riche propriétaire terrien dans le but de déposséder les populations autochtones. C'est assez violent aussi, il y a quand même beaucoup de violence. Mais vraiment, voilà, s'il y a un film à aller voir en particulier, là actuellement, c'est vraiment Les Colons. Je vais laisser Didier en parler aussi. Qu'est-ce qu'il en pense, mais
oui, la même chose que toi, globalement. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est un film extrêmement maîtrisé pour un premier long métrage et qui nous plonge dans un pan de l'histoire du Chili peu connu, y compris même, je pense, au Chili, c'est-à-dire cette conquête par la force du chemin vers l'océan. Et le film montre ça. Le film est extrêmement violent, comme tu l'as dit, cruel et sauvage même. C'est-à-dire que la vie humaine n'a aucune valeur. Ça ne sert à rien. Il faut absolument que la civilisation, entre guillemets, existe. Et tout ça se déroule dans des paysages il y a des panoramiques sur des paysages. On est au Chili, quoi, tout près de la cordillère des Andes. Il y a la Patagonie qui est, voilà. Et on a à la fois ces paysages très beaux, sauvages, etc., où se déroulent des actes absolument effroyables. Donc c'est une sorte de western, hein, en même temps, voilà. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que ça se passe tout début du XXe siècle, donc c'est quand même très très proche, hein. Il y a un peu plus de 100 ans. Et ça m'a renvoyé, moi, à la dictature que le Chili a connue un petit peu plus tard, 1973, hein, je crois, c'est ça, Pinochet. Donc c'était deux générations plus tard, on a retrouvé cette violence, cette sauvagerie pour s'accaparer les richesses d'un pays. Quoi. Donc oui, tu as raison, Cathy, c'est un film à voir, un film rare, je crois, parce que c'est un pan de l'histoire, d'une part, qu'on connaît peu, et puis c'est vrai que le côté cinématographique était extrêmement puissant.
Les colons de Felipe Galvez à Berlay, je pense que je me suis trompée dans mes notes. C'est à voir à Ruyons et Auteuil. Oui, non, c'est ça. À Ruyons et Auteuil cette semaine et la semaine prochaine au Navire. On continue avec Bonnard, Pierre et Marthe de Martin Provost. Vous êtes plusieurs à être allés le voir. Violetta, tu veux commencer à en parler ?
Ben, écoute, pourquoi pas, oui. Alors, hormis le fait que c'est l'histoire d'un homme, hein, d'un peintre, Pierre Bonnard. Donc, c'est une grande fresque, mais c'est aussi le portrait d'une femme, Marthe de Mérigny, qui partagea sa vie entre rire, larmes, amour, enfin bon. C'est un film d'époque. Il y a plusieurs femmes aussi dans ce film, notamment deux femmes qui s'opposent. Missia, qui est une bourgeoise parisienne, très proche des artistes. Et puis donc Marthe, qui elle est une femme de la campagne. Voilà. Donc on est entraîné dans un tourbillon, un vertige, c'est les costumes, les décors. Ce qui m'a fascinée, en fait, c'est redécouvrir en fait ce peintre qui a été un peu laissé pour compte pendant plus de 20 ans hein, quand même, alors que en fait dans sa peinture il y a des trouvailles notamment au niveau des cadrages de l'étagement des plans, les floutés, les profondeurs de champ, enfin bon, propre en fait au langage photographique. Ouais. Voilà. Donc je pense qu'il y a, à mon avis, quelque chose de très proche entre le peintre et Martin Provost. Je pense qu'il a voulu aussi mettre en avant cela, parce qu'en fait, c'est vrai que ce peintre, c'est un maître en fait. Du cadrage en fait insolite. Mmh. Il a développé une vision. Multifocale, très originale et moderne. Voilà.
Et qu'on retrouve dans la manière de filmer de Martin Provost.
Et qu'on retrouve, effectivement, je pense, oui, dans... Non, t'es pas d'accord, René?
Moi, j'ai un point de vue un peu différent sur le film, mais continue.
Toi, tu as aimé, tu pourras rebondir après.
Voilà, tout à fait.
Moi, j'ai aimé, je trouve que l'intérêt majeur de ce film... dont le titre devrait être surtout Marthe Bonnard, parce que c'est surtout sur elle, c'est que c'est un film qui nous rappelle qui nous montre que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Car enfin, Marthe, remarquablement interprétée par Cécile de France, apparaît dans ce film à la fois comme le modèle, la muse, la gouvernante, la maîtresse, la cuisinière, voire une mère de substitution pour le peintre Bonnard. En plus, et c'est la deuxième chose qui, moi, m'a beaucoup intéressée dans ce film, c'est la femme qui permet à Bonnard de s'arrêter à son milieu bourgeois d'origine, qui est subtilement représenté dans le film comme un milieu fermé, sclérosant. Je pense à ces scènes où ils vont rendre visite à sa famille dans la semi-obscurité, on chuchote, on est bien propre sur soi, tout est guindé. Par contraste, le couple va s'épanouir dans une maison en pleine nature, au bord de la Seine, une maison qui, contrairement à ce milieu bourgeois dont Pierre est originaire, est ouverte sur la nature, on a des scènes, on ouvre les fenêtres, on a ce décor idyllique, et Bonnard, enconcé dans ses costumes de bourgeois, va sous l'influence de Marthe se libérer symboliquement, elle l'entraîne dans des baignades nues dans la Seine. Et par contre, je trouve que ce film s'attache moins à la magie de ce qui fait qu'un peintre est un peintre. C'est pour ça que j'aurais bien aimé revoir les films qui ont été faits sur Turner, le magnifique Mike Lee sur Turner, ou le Van Gogh de Piala, pour voir s'ils essaient d'aborder... C'est très difficile de parler de ça. C'est très compliqué. Mais enfin, on peut essayer. C'est un film qui, à mon avis, s'essouffle un peu au milieu, focus d'un scénario qui quand même manque un peu de dynamisme, mais la fin est très intéressante. Voilà, pour moi, c'est un film limité, mais c'est un film que j'ai quand même beaucoup aimé.
Oui, c'est surtout quand tu dis qu'effectivement il s'essouffle, c'est le moment où on le voit à Rome avec René, tu vois. Et où là.
Il est perdu, là.
Il est perdu. Il met une sorte de distance par rapport au sentiment. T'as l'impression que il en a rien à foutre de sa souffrance. Enfin, il s'éloigne complètement en fait de ce côté charnel aussi.
Mais c'est là qu'il se passe quelque chose de très important quand même, dont on ne peut pas parler.
Voilà, exactement. On ne peut pas parler. Voilà, tout
Bonnard,
à fait.
Pierre et Marthe de Martin Provost.
Oui. Moi, j'aimerais bien juste la maison qu'ils ont au bord de la Seine là. Elle est absolument magnifique. Cette demeure
très symbolique.
Waouh.
Ouais. Tu l'as vu aussi ?
Oui, ouais. Oui.
Et d'ailleurs, rajouter ? Non.
Non.
D'ailleurs, c'est
je crois qu'ils ont dit.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant, effectivement, quand on pense à cette maison, de se replonger. Moi, je me suis replongée dans les tableaux de Bonnard, et c'est vrai que. Cette explosion de lumière, de couleurs, enfin c'est vraiment.
La fée en particulier là, c'est quand il perd l'amandier.
L'amandier.
Ah, c'est super ça.
Oh là là, franchement, c'est.
Donc même si vous assoupissez au milieu en tout cas, restez pour la fin.
Ça vaut la peine.
Ça vaut la peine et puis surtout après, t'as envie effectivement de te replonger dans la peinture de Bonnard. Et là, c'est vraiment.
Et puis la dimension féministe du film.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Bonnard, Pierre et Mar, donc de Martin Provost, à voir à Aubenas et à Privas, et la semaine prochaine à Rosières et Auteuil. Un mot, voire plus, sur deux films. Alors, tu me disais, Monsieur Robot n'est pas un film jeune public.
Bah, c'est un film jeune public, mais ce n'est pas que un film jeune public, c'est un film pour tous.
On est plus sur les 15-25 que les plus petits, quoi. Voilà.
Oui, moi je dirais les 1200.
Oui, alors...
Non, c'est vraiment un film que les adultes peuvent regarder avec énormément de plaisir.
Donc c'était un mot.
Je viens à dire un tout petit peu plus parce que c'est un film d'animation très très vite d'animation espagnole de Pablo Berger. Retour encore sur les rencontres en 2012, je crois, à Bianca Nieves, si ça vous dit quelque chose, c'est extraordinaire. Et là, il a fait un film d'animation dans un monde qui ressemble au nôtre, le monde des années 70, mais où tous les personnages sont des animaux très anthropomorphiques. Et c'est un film sur la solitude, sur l'amitié, pour aller vraiment très très vite et arriver directement à la fin, avec une fin très particulière, une sorte de happy end mélancolique. Ce qui est relativement rare dans le cinéma jeune public, même si, encore une fois, c'est un film pour tous.
Mon ami Robot, donc, c'est à voir à Ruance en ce moment. Parlons du cinéma jeune public, puisque Olivier, toi, tu aimerais donner un petit peu plus de place au cinéma jeune public.
Oui, j'aimerais bien.
Et puis, tu es allé voir, en tout cas, les 4 films qui sont actuellement à l'affiche à Aubenas, au navire d'Aubenas. Le garçon et le héron, Migration, dont tu as déjà parlé, et Wish, Achat et la bonne étoile, Mon Dieu, dont tu as déjà parlé. Et nous avons pris du temps pour parler de ce film. Et là, tu voudrais mettre... en avant et en valeur Sirocco et le royaume des courants d'air que nous avons eu le plaisir de voir d'ailleurs pendant les rencontres des cinémas d'Europe.
D'intérieur.
Oui, c'est ça. Pour éviter trop les courants d'air qui étaient vivaces. Alors,
oui, donc effectivement, moi, ça me tient à cœur de parler du cinéma jeune public. Je vais beaucoup au cinéma le mercredi après-midi. Et donc, je vois beaucoup les parents et les grands-parents emmener leurs enfants au cinéma. Et donc, comme je reproduis cette expérience souvent, j'ai effectivement vu les 4 films jeunes publics d'animation qui sont actuellement programmés au navire, donc Le Garçon et le Héron, le dernier Miyazaki, Migration, beaucoup aimé aussi, et Wish, et enfin Sirocco. Alors ces 4 films ont pour point commun de nous parler de l'initiation, chacun à leur manière, bien sûr. Migration, d'ailleurs, est assez rigolo parce que on ne sait pas bien si on assiste à l'initiation du fils et de la petite fille ou l'initiation du père qui découvre lui aussi le monde en même temps que ses enfants le découvrent, un petit peu poussé par sa femme, un petit peu comme Marthe et Bonnard, si vous voulez. Voilà, enfin, toute proportion gardée, naturellement. Et voilà, et donc, 3 films sur l'initiation, et puis un 4e, donc Sirocco. Et j'avais, moi, envie d'un peu de faire mon boulot, enfin, pour lequel je ne suis plus payé maintenant, mais je ne travaille plus, à savoir prof de philo. C'est-à-dire qu'effectivement, ces quatre films disent quelque chose aux enfants, à leurs parents et à leurs grands-parents sur l'initiation à la morale, à la politique. Ça dit des choses sont aussi des initiations esthétiques. Hein. Et donc, ce qui est très plaisant avec Le Garçon et le Héron, Migration ou Sirocco, c'est qu'on a de belles initiations qui ont un intérêt philosophique, moral, politique, qui ont un intérêt aussi esthétique, quoi qu'on puisse penser par ailleurs, et les bémols qu'on peut éventuellement mettre sur tel ou tel film. Par contre, effectivement, Wish, la production Disney, est une purge innommable. C'est quelque chose qui devrait être interdit. C'est-à-dire que si moi je calcule ça à l'aune de la capacité ensuite des jeunes à penser le réel, à penser leur vie, je pense que Wish est un crime contre la jeunesse. Les droits internationaux des enfants, ils en ont, devraient être ici mobilisés pour interdire la projection de telles horreurs. Qui sont, parce que oui, d'une certaine manière, c'est l'évangile du libéralisme à outrance. Tu l'avais toi-même dit, Sophie, ça a des relents New Age absolument repoussants et qu'on retrouve dans l'esthétique, si vous voulez, qui est nulle.
Bon. Je l'avais dit juste au regard de la bande-annonce. Moi, je n'ai pas vu le film.
C'est vrai, mais tu es un peu extra-lucide et à travers la bande-annonce, tu avais vu la totalité de l'horreur. Oui, on va voir si elle flotte dans l'eau, Sophie. C'est une question. Voilà, tu ne seras donc pas brûlé. Il n'y a que nous qui pouvons comprendre de quoi nous parlons. Donc je reviens à Wish, qui est un peu une histoire de sorcellerie également, ce qui me fait dire qu'on pourrait brûler ce film. Par contre, Sirocco, non. J'avais rencontré un papa et sa petite fille au sortir du cinéma il y a quelques semaines. Il m'avait engagé à aller le voir, ce que j'ai fait. Et le mot qui vient, je pense, à l'esprit, c'est enchantement. C'est un film qui enchante parce qu'on rentre dans le monde réel, un petit peu comme chez Miyazaki, qui dessine très bien le Japon des années 30. Et là, pareil, on rentre dans le monde actuel. Une dame fait garder ses deux enfants à sa meilleure amie. Bon, voilà, c'est dessiné, c'est mis en place. Et puis, au profit d'une marelle dessinée sur le sol, bon, je ne rappelle pas, les enfants hop, vont glisser dans le monde de Sirocco, le royaume des courants d'air. Et alors là, c'est un pur enchantement. On passe d'un monde dessiné à un monde de dessin, avec un urbanisme, avec une nature qui est représentée, et une histoire complètement ouverte, avec un héros... Sirocco. Alors là, pareil, je ne veux pas dévoiler évidemment la diégèse, mais d'une certaine manière, ce qui est admirable dans Sirocco, et c'est là que le prof de philo reprend la parole bien malgré lui, c'est-à-dire que ça propose une lecture de l'univers, du monde et des autres, une lecture ouverte, où chacun a son chemin à faire et ses choix à faire. Et donc, on est exactement à l'opposé aux antipodes de Wish, qui est un prêt-à-penser horripilant.
Ne parlons plus de Wish. Allez voir Sirocco et le royaume des courants d'air. C'est au navire. C'est un film de Benoît Chieux qui était là pendant les rencontres des festivals d'Europe. Super film. Merci. Alors, un mot juste pour terminer, mais vraiment très très court. S'il y a quelques films que vous voulez mettre en avant, c'est le festival Télérama. Donc, 4 euros pour revoir les films privilégiés. Profitons-en.
Les feuilles mortes.
Alors, les feuilles mortes, Didier.
Tous les films sont intéressants, mais je dirais The Quiet Girl.
Ah, bah oui, The Quiet Girl.
Ah oui, 100 fois oui.
Ah, bah voilà. Oui. Cathy Violetta, si vous avez
Moi, oui. Chien de la Casse pour moi.
Ah, il y a le procès Goldman.
Oui, ils sont.
Il y a beaucoup de
belles choses. Ils sont tous à revoir. Les filles d'Olpha.
Allez les revoir. Et puis aussi, on en a parlé hier, allez voir aussi les films, alors là, qui ont une autre vision, les films portés par la Confédération Paysanne pour le deuxième festival du film paysan. On en a parlé, vous trouverez toutes les infos sur Internet ou en réécoutant notre émission d'hier, L'Onde Curieuse. Merci à toutes et tous d'avoir été nombreux et nous avoir donné envie de voir des films au cinéma. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup Sylvain pour la réalisation. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Le film Les Colons.
Alors maintenant on met la caméra au milieu. Voilà.